L'enseignement, c'est quelque chose que j'adore. Et justement, je me sentais un petit peu emprisonné dans le système éducation nationale. Et c'est là où je me suis dit, OK, il y a forcément des choses à faire dans le numérique. Je me suis formé. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, ben voilà, maintenant que tu es formé sur la gestion de projet, sur comment accompagner des entreprises, ben c'est le moment de se lancer, de créer la propre structure et puis de faire les deux. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est qu'en fin de compte, les deux jobs se nourrissent l'un l'autre.
Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Vincent, merci d'être présent avec moi aujourd'hui. Comment ça va?
Très bien Elliot, merci surtout à toi de m'accueillir dans ce podcast.
Merci à toi. Est-ce qu'on peut commencer cet épisode par te présenter s'il te plaît?
Avec plaisir. Donc Vincent Bourgoise, moi je suis depuis plus de 20 ans, je crois que c'est 24 cette année dans le monde de l'éducation et de la formation. Donc je suis passé par plein de différents postes. Donc j'ai formé des formateurs, des enseignants. Je suis moi-même encore enseignant. Donc j'interviens un petit peu à l'université. Et puis au fur et à mesure, j'ai envie de vraiment lancer mon entreprise. Donc j'ai créé mon agence de conception pédagogique spécialisée dans la digitalisation de la formation. Et donc aujourd'hui, ben voilà, j'accompagne les OF, les CFA, les entreprises, les universités dans tout leur process de digitalisation, dans l'ingénierie pédagogique, la transformation de parcours de formation qu'ils souhaitent digitaliser. Et puis aussi, j'accompagne les équipes dans leur montée en compétences, parce que moi, ce que j'estime être important, c'est aussi d'accompagner les autres dans le fait de devenir autonomes, et puis de leur faire découvrir, bien évidemment, certaines petites solutions qui peuvent être sympas. Et puis un dernier point, ce qui se développe pas mal depuis le Covid, en fin de compte, c'est l'accompagnement plus stratégique. Puisque, bah, comme tu l'as vu et vécu comme tout le monde, il a fallu se mettre au digital du jour au lendemain. Et c'est pas forcément évident. Et par conséquent, le fait de pouvoir vraiment réfléchir à une stratégie qui convient à son propre contexte, bah, c'est super important pour que ça fonctionne. Donc, en quelques mots, voilà ce qu'on fait.
Ok, bah écoute, merci. Alors, on reviendra sur la stratégie. Moi, ça m'intéresse de comprendre comment tu t'es adapté et qu'est-ce qui a changé, parce que tu as justement un petit peu de bagage et tu pourras nous dire qu'est-ce qui a évolué et peut-être qui arrive dans le futur. Mais avant ça, moi, j'ai cru comprendre que tu as été enseignant dans le passé. Je me trompe pas. Tu l'es plus, il me semble, ou je me trompe
Alors,
peut-être.
je le suis toujours un petit peu
Tu es
de
encore
moins en
enseignant.
moins, mais
D'accord.
alors je le suis toujours pour deux raisons. La première, parce que j'adore ça. Donc j'interviens en lycée professionnel, en zone d'éducation prioritaire. Et je trouve ça très important pour moi, hein, personnellement, de garder un pied aussi dans ce monde-là, parce que ça me permet de côtoyer à la fois ce type de public. Donc ça m'oblige à trouver des stratégies, des petites choses pour les intéresser. Et puis, bah, travailler avec d'autres personnes hyper différentes dans le monde de la banque, de l'assurance, de n'importe quoi d'ailleurs, puisque moi, ce qui me plaît dans ce que je fais, c'est de travailler dans tous les domaines.
Et donc, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est comment tu as fait le pas. Est-ce que tu t'es dit un jour, bah allez, ça y est, je vais former des grandes entreprises, parce que c'est quand même pas la même chose de former des jeunes, peut-être un peu turbulents, que tu as besoin de concentrer et d'engager, versus des cadres peut-être qui sont en banque ou je ne sais quoi. C'est quand même pas vraiment la même chose. Comment tu as fait ce passage?
Alors en fait, il s'est fait assez naturellement parce que depuis que j'enseigne, alors évidemment les outils étaient complètement différents il y a 25 ans, hein, mais j'ai toujours cherché à utiliser le numérique en fonction de la plus-value qu'il peut apporter pour à ce moment-là d'ailleurs les élèves uniquement. Et au fur et à mesure, je me suis dit que voilà, l'éducation nationale, c'est quelque chose que j'adore. Enfin, l'enseignement, l'éducation nationale, pas forcément, mais l'enseignement, c'est quelque chose que j'adore. Et justement, je me sentais un petit peu emprisonné dans le système éducation nationale. Et c'est là où je me suis dit, OK, il y a forcément des choses à faire dans le numérique. Je me suis formé. Et puis, de fil en aiguille, je me dis, ben voilà, maintenant que tu es formé sur la gestion de projet, sur comment accompagner des entreprises, ben c'est le moment de se lancer, de créer la propre structure et puis de faire les deux. Et ce qui est très intéressant pour moi, c'est qu'en fin de compte, les deux jobs se nourrissent l'un l'autre.
Tu te rappelles comment tu as trouvé tes premiers clients? Parce que je me demande toujours comment on fait quand on n'a jamais été dans le privé pour trouver des premiers clients, parce que c'est quand même une tâche qui n'est pas toujours évidente déjà pour des personnes qui font que ça. Alors si en plus tu faisais une autre activité à côté, que tu te rappelles?
Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est aussi les hasards de la vie qui font que quand je me suis formé, il y avait des exercices en trinôme. Et je me suis retrouvé avec deux personnes avec qui on s'est vraiment très très bien entendu et qui travaillent toujours d'ailleurs à l'Agence française de développement. Et donc, lorsque chacun est reparti sur ses activités, l'un d'entre eux m'a contacté parce qu'il y avait un projet de digitalisation au campus de l'AFD et il m'a demandé si ça m'intéressait. Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion, ça s'est super bien passé, ce qui fait que de fil en aiguille, ça permet aussi de pouvoir mettre en avant cette expérience-là pour trouver un second client, etc.
D'accord.
Donc, c'est vrai que trouver des clients, je suis 100% d'accord avec toi, c'est quelque chose de très compliqué. Mais sur ce coup-là, j'ai eu un coup de pouce du destin et je pense que c'est aussi le fait de travailler, de respecter les autres dans les activités qu'on avait pu faire ensemble, qui fait que ça s'est bien passé et que naturellement, on est revenus les uns vers les autres.
Donc, ça a été le réseau. Et ensuite, est-ce que tu as continué donc tu as cette première expérience, tu avais déjà un petit peu de réseau. Tu as continué là-dessus ou est-ce que tu as aussi créé peut-être un site internet, fait un peu de marketing, démarcher des gens ou est-ce que c'est venu naturellement aussi?
Ouais, un petit peu tout ce que tu viens de dire. Alors, site internet, en fin de compte, non, parce que ça me demandait trop de temps. Et puis, je me disais qu'on ne peut pas être partout. Hein. Je n'ai pas les compétences. À ce moment-là, je ne pouvais pas forcément investir pour employer quelqu'un pour le faire. Oui. Et puis, par contre, en effet, essayer de gagner en visibilité sur LinkedIn, notamment, parce qu'en fin de compte, c'est le seul réseau que j'utilise. Essayer de partager mon expertise, de faire en sorte d'échanger avec différentes personnes, de commencer à échanger sans vouloir vendre quoi que ce soit. D'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'échanger. Et puis, de fil en aiguille, on m'a contacté, on m'a dit, on a une petite mission, est-ce que ça t'intéresserait ? Donc, en fonction de la mission, je disais oui ou non, en fonction de mes compétences, évidemment. Et puis, voilà, ça permet de gagner en notoriété, si je puis dire. Et puis, étant donné que pour l'instant, je touche du bois, à chaque fois, ça se passe bien, ça me permet aussi de fidéliser certains partenaires.
Et alors, c'est quoi les grandes différences entre enseigner et former, des professionnels? Comment tu t'adaptes? Et comment tu fais pour que ça se passe bien dans les deux cas? C'est quoi les grandes différences que je dois comprendre si tu veux me dire, attention, si tu vas là, il faut faire ça, si tu vas là, il faut faire ça?
Alors pour moi, l'une des très grandes différences entre enseigner et former, ça va être dans le temps. Quand on forme, c'est soit sur une journée ou plusieurs, évidemment, mais on va passer en général au moins une demi-journée ou une journée avec le même groupe, ce qui fait qu'on a le temps de prendre son temps au début pour créer cette dynamique de groupe-là. Et quand tu es en face de jeunes, alors évidemment, le fait d'être avec des adolescents, tu vas travailler de manière complètement différente qu'avec des adultes, ça c'est évident, ne serait-ce que dans la communication. Mais en plus, dans l'enseignement, ce sont des périodes très courtes. Moi, par exemple, les élèves que je peux côtoyer, je les vois 55 minutes. Donc ouais. En 55 minutes, c'est ce que je dis de temps en temps lorsque j'échange avec d'autres formateurs, je leur dis en 55 minutes, je n'ai pas le temps de faire ce que tout le monde préconise, c'est-à-dire un icebreaker, ce genre de choses, pour créer une dynamique de groupe. La dynamique, je vais la créer, mais au fur et à mesure, sur un temps beaucoup plus long. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, quoi. C'est la gestion du temps qui va être très différente, puisque dans l'enseignement, je vais enchaîner des périodes très courtes de 55 minutes, alors que dans le domaine de la formation professionnelle, ça va être des journées. Et donc là, la gestion du temps est complètement différente.
Est-ce que ça veut dire que ça serait mieux d'avoir dans l'éducation nationale des gros blocs de demi-journée ou de journée pour former les étudiants plutôt que 55 minutes?
Alors, ça existe déjà pour les personnes qui enseignent des matières professionnelles. Okay. Donc, ce sont des blocs plus longs, en général 2, 3, voire 4 heures. Alors ça, c'est bon côté et c'est moins bon côté aussi puisque on revient par contre à des choses essentielles dans les deux cas, c'est-à-dire être capable de proposer des activités vraiment diverses qui vont redynamiser le groupe, qui vont capter l'attention, etc. Donc ça demande une conception pédagogique complètement différente. Mais les deux sont envisageables à mon avis, mais c'est dans la façon de construire justement ces sessions de formation où là, ça va être, l'ingénierie pédagogique va être un peu différente.
Alors on peut parler un petit peu d'ingénierie pédagogique, donc quelles sont tes activités préférées ?
Alors moi, je m'éclate vraiment dans tout ce qui va être au début d'un projet. C'est-à-dire, je vais adorer la gestion de projet, l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire réfléchir au parcours à construire en fonction du public cible, en fonction des besoins, des attentes, beaucoup échanger avec les experts. Parce que moi, par exemple, j'estime avoir une certaine expertise en ingénierie pédagogique. En revanche, je n'en ai pas en management ou dans le domaine de l'assurance ou autre. Donc, je vais forcément travailler avec un expert. Et c'est ça que j'adore aussi parce que ça me permet de construire. C'est toujours de la co-construction. Je ne vais jamais être dans mon coin et surtout, je ne le souhaite pas d'ailleurs. Donc, construire avec. Et puis, ça me permet aussi, moi, de m'enrichir. Quand je travaille sur certains domaines que je ne connais pas, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine de la gestion des services publics ou de la gestion des risques environnementaux et sociaux, à la base, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise et j'apprends plein de choses grâce aux experts. Et ensemble, on essaie de construire le parcours qui va bien. Et c'est vraiment là où moi, je prends un plaisir fou. Après, quand on passe à la réalisation des contenus, alors je suis capable de réaliser certaines choses, hein. Alors je suis loin d'être un expert sur Storyline ou tous ces outils-là, mais je suis capable de construire certaines choses, mais je préfère laisser ça justement aux experts et moi garder la partie où je m'éclate vraiment.
Quand tu dis tu parles aux experts, tu parles véritablement, tu prends un temps à l'oral avec ces personnes-là ou est-ce que tu emploies par exemple, on parle pas mal de questionnaires de positionnement, de questionnaires de... je sais pas, d'évaluation, pré-formation, histoire de mesurer. Alors, c'est plutôt par rapport aux étudiants, d'ailleurs, aux élèves, plus que par rapport aux experts, donc peut-être qui va t'aider à concevoir. Comment tu gères tout ça ? Est-ce que tu as les outils que tu recommandes ?
Alors, comment je gère tout ça ? Comme tu viens de le dire très, très bien, Elliot, c'est avec les apprenants. Ça va être plus le questionnaire de positionnement en début de parcours, etc., puis après des évaluations formatives, etc. Mais avec les experts, moi, je prends toujours du temps. Alors, si je peux... en face à face, de façon à ce qu'on puisse vraiment échanger, ou alors, comme on le fait aujourd'hui, soit en audio, visio, mais c'est très très important parce que ce sont eux les détenteurs du contenu, de l'expertise métier. Donc moi, j'ai besoin qu'eux aussi puissent me donner un certain nombre de choses, d'apprendre à les connaître pour qu'ensemble, encore une fois, je puisse construire un parcours qui leur ressemble, malgré tout. Parce que je trouve ça également très important que ça ressemble.
C'est quoi les questions types qu'on peut poser à un expert ? Si par exemple, moi, je ne connais rien du tout au monde de l'assurance, je veux créer une super formation, je suis ingénieur pédagogique, comment j'arrive à créer une super formation pour le monde de l'assurance ?
Alors, d'abord, moi, je te dirais que le monde de l'assurance est tellement vaste qu'il va falloir déjà rétrécir le spectre pour aller sur certains éléments bien précis. Puisque si tu veux vraiment former sur le domaine de l'assurance, ben là, va falloir que tu crées une école. Mais après, moi, ce qui va m'intéresser, justement, c'est de voir avec eux, d'une part, comment ils travaillent d'habitude, les formations qu'ils proposent déjà, parce qu'en général, il y a beaucoup d'experts qui forment déjà certains collègues, et puis voir avec eux, justement, le commanditaire, les éléments sur lesquels les apprenants doivent absolument monter en compétence pour qu'on aille piocher dans les contenus ce qui est le plus pertinent, et après voir ensemble, et c'est là où j'espère apporter quelque chose, les activités qui vont permettre de les impliquer, que ce soit en ligne, en salle, etc., pour que ça soit pas uniquement ce que j'appelle de l'information, c'est-à-dire recevoir du contenu via des capsules vidéo, mais sans jamais être mis en action. Et pour moi, tant que je ne serai pas mis en action, que je puisse me tromper, que je puisse échanger avec les collègues, de façon à essayer une manière différente, etc. Essayer également dans des contextes divers. Tout ça, ça va m'aider, ça va alimenter ma réflexion, et je pense que c'est dans ces moments-là où je vais vraiment monter en compétence. Si je ne reçois que du contenu, pour moi, je vais monter en connaissance, en effet. Par contre, j'ai peu de chances de monter en compétence, selon moi.
D'accord. Et comment tu équilibres ça ? Est-ce que tu ne donnes pas du tout de contenu ? Non, j'imagine quand même que tu donnes un peu de connaissances. C'est quoi le bon ratio ? Est-ce que tu as un bon ratio que tu appliques ou...
Alors pour moi, c'est les deux se mélangent. Parce que, alors en effet, il faut du contenu. On ne peut pas monter en compétence sans avoir de contenu, c'est évident. Mais moi, ce que je souhaite absolument, c'est faire en sorte que ce contenu-là puisse être mis dans des situations, dans des activités, aussi vite que possible. quitte même à proposer des sortes de questionnements aux apprenants, de façon à ce qu'eux-mêmes réfléchissent pour avoir ensuite le contenu qui va leur être apporté en fonction des connaissances qu'ils vont déjà avoir.
Ok, donc pour reprendre l'exemple du monde de l'assurance, tu me conseillerais peut-être, hein, si ça apporte bien dans le cadre de l'exercice, une utilité, mais de faire un appel par exemple avec un potentiel client pour directement mettre en application les exemples par rapport au monde de l'assurance que je viens d'apprendre.
Pourquoi ça, pas, en effet, ouais, alors soit on a vu les points clés de l'appel, un peu en amont, et puis après on va pouvoir mettre en scène de façon à ce que justement on voit ce qui se passe au niveau de la voix, au niveau de la gestion des conflits, peut-être pas, mais des plaintes ou des questions que les clients peuvent avoir, en effet. Ou alors, bah, si ces personnes-là sont déjà dans le domaine de la banque, leur demander de se mettre en action pour ensuite analyser ce qui va bien, parce qu'il y a forcément des choses qui vont bien, et puis les points qu'il faudrait améliorer, et c'est là où on peut amener du contenu, et puis après demander de mettre à nouveau en œuvre, de façon à pouvoir mesurer le delta entre comme on était avant d'arriver en formation, et puis comme on y est après, et ce qui va être hyper important aussi, c'est plusieurs semaines après, ou voire plusieurs mois, est-ce qu'on a repris nos mauvaises habitudes, ou au contraire, est-ce que les bonnes pratiques sont toujours en œuvre.
Comment tu le mesures, ça? Tu mets des questionnaires, tu encourages tes clients à mettre quelque chose en place?
Alors, le questionnaire, c'est très bien pour savoir si les personnes sont contentes et puis si elles ont appris des choses. En revanche, si on veut aller un peu plus loin sur les changements de comportement, parce que c'est bien ça, pour moi, la formation professionnelle, hein, c'est on va améliorer nos comportements dans la vie professionnelle de façon à être meilleur. Hein. Et donc ça, pour moi, c'est plus à voir avec soit les managers, soit les commanditaires, pour justement reprendre certaines activités grâce auxquelles on va pouvoir remettre, en fin de compte, les apprenants dans un contexte qui va leur permettre de pouvoir déployer ces nouvelles compétences, et voir avec eux si, malheureusement, certains, ce qui paraît logique aussi, sont retombés dans certains travers qu'ils pouvaient avoir au départ, ou si au contraire, tout le monde a bien, alors non pas 100% de ce qui était attendu, ça me paraît ambitieux et peut-être un peu utopiste, mais en tout cas un gros pourcentage de ce qui devait être acquis, et ben en effet c'est bien entré dans les pratiques. Et pour moi, ça, tu peux le faire que si tu leur proposes de nouvelles activités qui leur permettent de mettre en œuvre.
D'accord, donc un mix de quantitatif et de qualitatif, parce que j'imagine que tu as quand même besoin de mesurer un petit peu la masse, mais tu ne peux pas le faire juste avec un petit questionnaire, quoi.
Pour moi, c'est pas envisageable. Donc tu vas pouvoir, en effet, alors le questionnaire va te permettre de mesurer les connaissances, mais encore une fois, est-ce que si je sais que quand je dois répondre au téléphone, il faut que je dise ça, est-ce que ça garantit que je vais le faire? Ça, en fin de compte, je peux le savoir que si je suis mis en situation dans des contextes variés, justement. Et là, je vais voir si je réagis mieux qu'avant d'être formé, ou si malheureusement, il n'y a pas forcément d'amélioration, auquel cas, ça veut dire certainement que le parcours que j'ai suivi n'était pas au top, en tout cas.
Ouais. Alors, tu me parlais un petit peu de stratégie au tout début, en me disant que la stratégie avait pas mal évolué aussi, qu'on était forcé d'être passé au digital avec le Covid notamment. Alors, on l'a tous vu, hein, ça c'est assez clair. Mais est-ce que tu peux me dire, toi, ton ressenti sur l'état aujourd'hui de la formation par rapport au digital, et où est-ce qu'on va? Et est-ce que, si par ailleurs, tu as des outils d'ailleurs que tu recommandes, ou comment tu évalues les outils? Parce que tu parlais de... Alors, ça fait plusieurs questions en une, mais tu parlais de valeur des outils par rapport à un contexte. Comment tu mesures la valeur d'un outil avant finalement de l'avoir utilisé? Ou est-ce que tu sais déjà de ton expérience? Voilà, je suis curieux de savoir comment tu fonctionnes autour de ça.
Alors, en fin de compte, moi, alors l'aspect stratégique, en effet, comme tu le dis, hein, c'est quelque chose qui est hyper important, mais quel que soit le domaine dans lequel on travaille. Et malheureusement, dans le domaine de la formation, avec la crise sanitaire, il a fallu qu'on se jette dedans comme on a pu.
On n'a pas eu le choix.
Voilà, en 24 heures, on nous a dit, maintenant, on ne se voit plus, on fait tout en ligne, donc il a fallu se débrouiller. Et c'est quelque chose de très important. Et pour moi, chaque OF, chaque université, chaque entreprise va avoir son contexte bien précis. Alors, on peut évidemment trouver des éléments qui vont être communs à beaucoup, mais pour moi, j'arrive jamais chez un client en disant, j'ai ma boîte, j'ai ma trousse à outils, je vous la mets à disposition, et puis ça va forcément marcher. Parce que pour moi, en fonction du contexte, de l'équipe pédagogique, du public auquel il s'adresse au quotidien, c'est là où justement on va voir, en fonction aussi de la capacité d'investissement, de tout un tas d'éléments, de la maturité numérique des équipes, c'est là où on va se dire, on travaille ensemble, et au fur et à mesure, On va sélectionner certains outils qui vont pouvoir apporter une plus-value à votre signature pédagogique, parce que alors c'est quelque chose que je martèle peut-être trop, hein, mais pour moi, voilà, le cœur du métier, ça reste la pédagogie et l'humain. Et le numérique va pouvoir apporter une plus-value si on choisit l'outil qui va bien au moment qui va bien. Sinon, si c'est pour mettre du digital pour du digital, j'en vois pas l'intérêt personnellement. Et c'est pour ça qu'en fonction du contexte de chacun, certains outils comme Kahoot pour faire des quiz vont pouvoir être intéressants. D'autres vont plutôt aller vers un autre outil parce que y a un contexte un peu différent. Et puis, l'équipe pédagogique a déjà testé certains outils ou a déjà sa trousse à outils. Donc, je me base forcément sur l'existant. Je n'arrive pas avec une solution toute faite. Parce que pour moi, c'est la pire des choses, en fait.
Ok, ouais, très bien. Donc, pas de template. Tu y vas en posant les bonnes questions, en essayant de s'adapter et donc toujours en restant flexible. Donc, on va parler d'agile, finalement, en logiciel. Donc là, c'est un peu la même logique. On reste agile. Est-ce que tu as un exemple, parce que tu parlais quand même de niveau d'appétence, compétence numérique, tu as un exemple où tu es arrivé dans une entreprise et tu t'es dit, ok, là je suis un peu choqué quand même du niveau, mais finalement c'est bien passé, et comment tu as fait du coup pour t'adapter? Comment tu t'adaptes en gros dans une situation un peu extrême qui soit... Ou alors que peut-être à l'inverse, hein, tu as eu un cas où ils disent, non mais moi je veux les... Je veux que s'il n'y a pas d'outil digital de ouf, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu as déjà eu un ou deux exemples dans les deux sens?
Oui, tout à fait, dans les deux cas d'ailleurs. Et... Alors, dans le cas de où tu arrives et que tu dis, mince, là, le digital, ça va être compliqué. Enfin, en tout cas, ça paraît compliqué. Ça m'est arrivé, en effet, à un OF tout petit. Mais alors, c'est là où ce qui est important, c'est les premiers échanges avec les équipes. Ouais. Et c'est là où j'ai senti que les personnes souhaitaient vraiment aller de l'avant, avaient vraiment soif d'apprendre des choses. Donc, petit OF dit une capacité d'investissement assez réduite, mais je leur ai dit, c'est pas grave, il y a beaucoup d'outils qui ne demandent, qui peuvent être gratuits d'ailleurs. Ce qui va être important, c'est votre envie, le fait que vos parcours au niveau pédagogique soient super intéressants et super carrés, et on va ajouter des petites touches de ci, de là, et là, l'envie de l'équipe était au top, quoi. Donc ça marche super bien. Et comme tu le disais, tu peux arriver dans des groupes beaucoup plus importants où là, en fait, on peut vouloir du beau qui claque, etc. Et il arrive fréquemment qu'au bout du compte, on leur dise, oui, donc ce que vous voulez, en effet, ça va être beau, etc., mais ça ne répond pas aux besoins réels de vos équipes. Donc peut-être souvent, c'est plus avec les managers et puis les commanditaires, essayer de leur faire comprendre que ce qu'eux ont en tête et les besoins réels de leurs équipes ou de leurs apprenants, le décalage est trop grand et donc il faut revoir les choses.
D'accord, ok. Ça arrive souvent qu'il y ait un gros décalage entre ce que pensent que les managers pensent que les employés ont besoin et vice-versa ou...
Alors ça peut arriver, alors de moins en moins je l'espère, mais c'est vrai que ça arrive, mais ce qui est tout à fait logique, hein, le commanditaire, alors en fonction de la taille de l'entreprise, évidemment.
En fonction de la distance, peut-être, avec la personne.
Aussi, voilà. Donc, ça peut créer, chacun a son idée. On se dit, moi, je veux que mes collaborateurs montent en compétence sur tel domaine. Donc, j'estime qu'il leur faut ça. Et puis, en fin de compte, en échangeant avec eux, parce que pour moi, les premiers échanges sont très, très importants pour bien comprendre ce qui va et puis ce qui va moins bien et les besoins réels. Et c'est là où y a toujours un delta et faire comprendre aux uns et aux autres qu'en fin de compte, le besoin réel ne se trouve pas forcément là. Et il arrive aussi que, alors ça m'arrive rarement et tant mieux, mais que je leur dise en fin de compte, je ne suis pas sûr qu'un parcours de formation soit la meilleure réponse au problème que vous avez. Ça peut être un frein au changement, par exemple. Et alors évidemment, la formation peut apporter des réponses, mais il faut aussi amener d'autres éléments en plus de la formation.
Ok. Alors, je vais prendre un petit scénario hypothétique qui arrivera, enfin, je te le souhaite que ça arrive, mais il y a quand même peu de chance, où tu as demain 1000 entreprises qui d'un coup te contactent, Vincent, et te disent « on a besoin que tu viennes ». Donc finalement, tu ne peux pas répondre à tout. C'est pas possible, tu ne peux pas te dupliquer.
C'est vrai. Dupliqué.
Donc peut-être que tu pourras embaucher des gens, mais on ne va pas partir de cette idée-là parce que tu n'as pas le temps. Donc du coup, tu te dis que tu vas plutôt écrire une petite checklist aux 990 auxquels tu vas pouvoir répondre gentiment, mais pas pouvoir travailler avec eux, et tu travailleras vraiment avec 10. Mais donc les 990, Qu'est-ce que tu leur écris dans la petite checklist pour leur dire, voilà les petites astuces que moi je vous donnerai pour commencer à créer, à préparer votre formation pour quand il y aura quelqu'un qui viendra vous aider?
Alors, premier élément, c'est qu'en effet, sur les 1000, je risque pas de leur répondre, tu as tout à fait raison. Mais j'ai quand même, avec 2-3 collègues, on a créé le collectif Digital Learning for You, ce qui nous permet de répondre à des projets un peu plus importants. Donc, c'est gentil d'avoir tendu la perche pour le collectif. Parce que, tu vois, je me permets d'en parler, parce que pour moi, c'est quelque chose de très important, non pas le collectif en lui-même, mais le fait de trouver des partenaires dans le réseau qui ont des compétences différentes des miennes, mais qui sont très complémentaires. Et ça permet à chacun de s'éclater, soit comme moi, par exemple, dans l'ingénierie pédagogique, ou pour d'autres, dans la réalisation de modules interactifs, etc. Donc, j'ai juste rebondi pour amener cet aspect-là.
Très bien.
Et par rapport à ta question, en effet, alors moi, je leur dirais qu'il faut surtout bien analyser la situation de départ pour vraiment, un petit peu ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire que mieux on va avoir analysé les besoins, les personnes auxquelles on s'intéresse, leur maturité numérique, leur façon de se former jusqu'à maintenant, etc., ça va permettre déjà de se dire, ok, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Et tout part de, selon moi en tout cas, tout part d'une analyse hyper fine de la situation actuelle pour pouvoir se dire, ouais, en effet, là, faut qu'on fasse un effort de formation sur tel aspect. Et après, en effet, on pourra se dire, bah, au niveau de la conception pédagogique, ça va déclencher ceci, cela. Si c'est un parcours e-learning, par exemple, tout en ligne, bah, l'aspect accompagnement des apprenants en ligne va être hyper important. Sinon, on court à la catastrophe. Donc, je ferai une checklist depuis l'analyse des besoins jusque l'analyse du parcours de formation en bout de course. Parce que, évidemment, une fois que tout est fait, que la première cohorte, par exemple, s'est formée, bah, il va être super important aussi d'être capable de prendre du recul, de se dire, OK, ça a bien fonctionné. Par contre, ici, on a des trous dans la raquette. Donc, il faut absolument qu'on retravaille cet aspect-là.
Est-ce que de ton expérience, tu as vu 2-3 exemples de choses qui marchent bien lorsqu'il s'agit de e-learning, lorsqu'il n'y a pas un formateur dans la salle et qui est là pour engager les apprenants? Est-ce que ce soit des outils, des formats, des modalités
Alors pour moi, personnellement, le e-learning 100%, je suis plutôt défavorable. Je reste convaincu que la formation, c'est quelque chose de social et qu'on a besoin de se rencontrer aussi à un moment donné. Donc moi, je suis un grand fan du blended. Donc qui va lier à la fois en ligne et puis en présentiel. Mais si c'est un parcours e-learning, l'aspect accompagnement en ligne, tutorat, va être déterminant selon moi, parce que ça va permettre de créer une dynamique de groupe, faire en sorte que les gens puissent communiquer entre eux, échanger. Après, dans les contenus, moi, ce que j'estime hyper important, ça va être un petit peu comme en présentiel, ça va être de varier les activités, de faire en sorte que je puisse... commenter les travaux de certains de mes collègues pour voir alimenter ma propre réflexion, leur dire bah tiens, moi j'aurais fait différemment, qu'est-ce que t'en penses, etc. Puisque je peux pas me former tout seul. Enfin, je travaille seul, mais j'ai besoin de l'autre pour alimenter ma réflexion et vraiment monter en compétence. Donc dans les parcours en ligne, c'est ça, vraiment des choses courtes pour éviter qu'on décroche. S'il y a de la vidéo, je suis aussi un grand fan des vidéos interactives qui vont m'obliger à réfléchir, à prendre des décisions qui vont... Alors le top, c'est les vidéos en branchement, hein, c'est-à-dire qu'en fonction de ma décision, il va se passer ceci ou cela. Mais toi, te regarder une vidéo, c'est bien, mais si après, je ne suis pas amené à prendre des décisions, à réfléchir, à travailler avec mes collègues sur une thématique ou un exercice, bah, il va me manquer des choses, quoi. Donc c'est vraiment toujours faire en sorte que l'apprenant soit impliqué et fasse des choses.
Ok, très clair. Et bien écoute, sur ces belles paroles, moi je te propose de passer aux questions de la fin, si tu es prêt pour ça.
Allez.
Et donc, première question, est-ce qu'il y a une personne ou un média que tu suis particulièrement dans l'univers de la formation?
Alors, une personne, non, parce que... Alors, tout simplement parce que je pars du principe que quand on est dans ce monde-là, et le mieux, c'est quel que soit le domaine d'ailleurs, il faut être curieux. Donc je suis de nombreuses personnes, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de choses intéressantes à dire, quel que soit le domaine d'ailleurs, et j'en suis beaucoup, de façon à pouvoir entre guillemets, picorer à droite à gauche des petits éléments, et encore une fois, toi, pour alimenter ma propre réflexion. Et grâce à eux, voilà, j'entre en contact avec eux, je peux poser certaines questions, d'autres vont entrer en contact avec moi. Donc échanger, je suis vraiment beaucoup, beaucoup dans l'échange, moi, j'ai besoin de ça. Donc une seule personne en particulier, non. Par contre, sur LinkedIn, qui est mon réseau social, enfin, l'unique que j'utilise, voilà, rentrer en contact avec des personnes comme toi, par exemple, et d'autres, pour pouvoir échanger, savoir ben, comment tu envisages la formation, les évolutions, etc. Ben, moi, ça me permet d'alimenter ma propre réflexion et donc ben, d'avoir d'un coup me dire « Ah oui, tiens, dans le parcours sur lequel je travaille avec un tel client, peut-être que ce que m'a dit Elliot, ça pourrait être intéressant d'y réfléchir pour l'intégrer. »
Super. Est-ce qu'il y a un outil que tu aurais envie de partager ?
Alors un outil, il y en a tellement que, alors justement, il y en a même trop depuis un petit moment. Hein. C'est la course à qui va réussir à sortir l'outil qui sort du lot. Mais je dirais qu'en fin de compte, l'outil qui m'est indispensable, ça va être mon smartphone et mon PC, parce que justement, grâce à eux, je vais retrouver tous mes petits outils. Toi, alors là, pas pour faire de la promo, mais je vais pouvoir retrouver EduSign sur mon téléphone. Avec mes apprenants, si je suis en ligne ou même en présentiel, pour qu'on puisse faire l'émargement, je vais pouvoir retrouver un tableau collaboratif comme Miro pour créer du brainstorming. Ou après, ça c'est en fonction des objectifs pédagogiques. Mais grâce à mon PC et mon smartphone, je vais pouvoir retrouver tous ces outils-là au même endroit. Et donc, c'est vrai que si on me retire ces deux outils-là, ça va être très 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 compliqué. Hein. Je vais revenir à l'ancienne, ce qui marche très bien aussi. Mais je vais être obligé de repartir sur ce que je pouvais faire il y a 25 ans.
Ce qui est parfois un peu plus laborieux. Ok, ça marche. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet ?
Oui, alors il y en a même deux en ce moment. Il y en a un alors, qui est dédié à la pédagogie, parce que je suis un grand malade. Hein.
Tu ne t'arrêtes pas, jamais.
Je ne m'arrête pas, voilà. Donc il s'appelle, alors il est en anglais, il s'appelle « Talk to the Elephant ». C'est écrit par, alors je me permets de regarder parce que je veux pas écorcher son nom, c'est Julie Dirksen. Et en fait, c'est pour justement, c'est quelqu'un qui a réfléchi à comment favoriser l'implication et quel type d'activité proposer pour dynamiser et puis toujours relancer la motivation, etc. Et puis à côté de ça, j'ai un autre livre, alors qui a absolument rien à voir avec la pédagogie, mais de James Baldwin, un auteur américain que j'apprécie beaucoup. Donc, que je lis régulièrement.
D'accord, super. D'ailleurs, vous pourrez retrouver donc, tous les liens qui sont évoqués dans la description de l'épisode, si jamais ça vous intéresse donc, d'aller lire ce livre, par exemple. Et donc, la plus grande question, qui est la formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi ?
Waouh ! Alors là, c'est une question très compliquée, parce qu'avec tout ce qui change là, depuis quelques mois, avec l'arrivée de l'IA, etc., savoir ce que ça va être dans 10 ans, c'est vraiment... Alors, s'il y a quelqu'un qui arrive à te donner une réponse hyper précise, tant mieux. Moi, j'en suis bien incapable. Je pense que... Alors, j'espère, en tout cas, ce que j'espère de la formation dans 10 ans, c'est que l'IA apporte tout un tas de choses, c'est-à-dire être capable, en effet, de pouvoir proposer des parcours plus personnalisés, tout en gardant l'humain au cœur. Parce que, encore une fois, moi, la formation, c'est vraiment, c'est une activité sociale. Donc, il y a beaucoup de choses grâce à l'intelligence artificielle qui peuvent être super intéressantes. Moi, je m'y intéresse beaucoup. Je suis loin d'être un expert, mais j'estime que s'intéresser à l'IA, c'est nécessaire. Par contre, foncer tête baissée dans l'IA, il faut pas. Ça, c'est mon avis. Hein. Et j'espère que la formation et l'intelligence artificielle vont réussir à créer tout ce qui va bien pour que, au niveau de la formation, ça soit le top pour les apprenants.
Ok, donc quand même plus d'intelligence artificielle probablement, plus d'adaptation.
Oui, oui, oui. Et puis, ce qui concerne l'intelligence artificielle, j'espère qu'on va mettre le paquet aussi sur former les gens à l'utilisation, mais à la compréhension de l'intelligence artificielle et regarder son esprit critique. Ça va être notamment avec les adolescents.
C'est sûr que tous les biais cognitifs des IA vont être compliqués,
et ouais.
Compliqués à gérer.
Et ça, pour moi, ça va être l'un des, des éléments sur lesquels il faut absolument bosser dès maintenant, quoi. Il aurait fallu déjà commencer.
Dis-moi Vincent, où est-ce qu'on peut te trouver plutôt digitalement, je suppose ?
En effet, alors sur LinkedIn, vous tapez Vincent Bourgoise ou Diginnovative, donc, qui est le nom de l'entreprise. Sinon, nous, on est basé à Orange, dans le sud-est, à côté d'Avignon. Alors, pour ceux qui ne visualisent pas forcément, c'est si jamais vous prenez la route des vacances, l'autoroute A7, c'est là où il y a les plus gros bouchons l'été. Donc, arrêtez-vous, hein, on vous paiera un petit verre, une petite orangeade. Mais c'est dans le sud-est, en sachant que on travaille partout et on travaille aussi bien en français qu'en anglais, ce qui nous a permis de travailler avec des personnes. Ça, c'est super intéressant aussi, quoi. Ça oui. Permet de découvrir des cultures différentes. J'ai eu la chance de travailler avec des Chinois, des Pakistanais, etc. Ça, c'est super enrichissant.
C'était dans ma liste des questions, mais tu vois, on manque un tout petit peu de temps. Mais écoute, ça fera peut-être l'objet d'un prochain épisode. Pourquoi pas, l'international et comment tu gères ça en tant que formateur.
Ah bah super, avec grand plaisir.
Donc ma foi, pourquoi pas. Écoute, Vincent, merci beaucoup d'être passé dans le podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer l'épisode ?
D'une part, merci à toi, Elliot, de m'avoir proposé de travailler avec toi sur cet épisode-là. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, ce que je dirais juste, c'est que voilà, il faut se former tout le temps, tout au long de la vie. Par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je sais, depuis un certain temps, il y a quand même beaucoup d'argent dans le domaine de la formation. Et il faut bien faire attention. L'objectif premier, c'est bien favoriser la montée en compétence de l'autre, de celui qu'on accompagne, et non pas juste trouver l'outil qui va bien pour gagner de l'argent uniquement. Alors j'espère que ça, c'est très très rare, mais le rappeler, ça peut être bien. La formation, c'est quand même une action sociale et qui vise à accompagner l'autre dans sa montée en compétence.
Vincent, merci encore, et je te souhaite une très bonne journée et de belles formations.
Merci beaucoup, Elliot, à bientôt.
Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.